Attention, attention, le podcast des petites frousses y contient des propos qui ne conviennent pas à tous. On va faire parfois des références à de la violence, des termes vulgaires et des sujets qui peuvent être perturbants pour certains. C'est à votre discrétion. Oh, c'est parti.
Je vous parle d'un meurtre irrésolu. C'est un cas qui date de 80 ans passés. Ça fait longtemps.
80 ans passés.
Le meurtre en soi est assez intense. C'est sombre. Ça pousse à se poser un petit peu plus de questions. Toi, ça se peut que tu n'as déjà entendu parler, Catherine?
Ouais.
Ben, c'est ce genre d'affaire que tu saurais. Hein? Je pense. Tu me le diras si ça te demande. Oh, il y a une ampoule qui allume, tu me le diras.
Mais écoute, depuis le début, là, toutes tes histoires, je suis une fan de true crime puis de podcasts, de trucs de même, je les avais jamais entendues sauf une que j'ai entendue après que tu me l'aies contée.
Regarde. Qui est The Watcher?
Oui.
C'est ça. Le tout commence en plein durant la Deuxième Guerre mondiale, puis durant cette période, la guerre était à son pic en Europe, puis il y avait beaucoup de rationnement de nourriture. C'est pourquoi le 18 avril 1943, à Worcestershire, en Angleterre, quatre garçons qui ont décidé d'aller marcher dans les Hagley Wood, qui est un boisé du coin, pour aller chercher des nids d'oiseaux dans lesquels ils espéraient trouver des œufs. Puis dans ces garçons-là, c'était tous des adolescents. Il y avait Bob Farmer, qui avait 15 ans. Il y avait Robert Hart, qui avait 15 ans aussi. Fred Payne, 14 ans. Et Thomas Willett, 17 ans. Les garçons ont trouvé un grand arbre, qui est nommé un orme blanc. Et puisqu'on est un podcast audio, je vais vous montrer une photo, puis j'aimerais que vous me décriviez cet arbre.
Un petit cours de bio.
C'est passé tout un arbre, OK?
Moi, je le décrirais comme étant un porc épic.
Ouais.
What the fuck? On dirait...
C'est comme une boule qui ressemble un peu à une tête, là, mais avec plein de branches qui ressemblent à des épines, d'où le porc épic, puis là, ça fait...
Mais c'est vraiment fucking weird.
On dirait qu'il y a un genre un buisson puis un arbre qui ont foncé dedans l'un envers l'autre très vite, puis là, fusionné.
C'est comme une tête, le fond est en headset, puis les cheveux, c'est juste plein de branches random.
Ouais, ah, c'est bien ça.
Wow, c'est
à peu près ça. C'est mais poétique. C'est fucking gros, là, tu sais.
Ben, l'arbre, il mesure entre 5 et 6 pieds d'hauteur.
OK, c'est pas mais si gros que ça.
C'est un arbre assez... Tu sais, mettons qu'il est large à cause de ses mille et une branches. Le tronc de cet arbre était vide. Les garçons pensaient avoir vu quelque chose de blanc et de rond dans l'arbre, comme des œufs d'oiseau. Bob Farmer, un des quatre garçons, a escaladé l'arbre aux allures sinistres, comme vous avez vu, une fois un peu plus en hauteur, et jette un coup d'œil dans le tronc de l'arbre vide. C'était pas un œuf, c'était un crâne. Sur le coup, le pauvre Bob pensait que c'était un crâne d'animal. Il a pris une branche et il a réussi à retirer le crâne du trou. Puis il l'a regardé là, face à face. Là. Puis il a remarqué qu'il y avait des cheveux et de la peau en décomposition, encore en place, tu sais, un petit tas dans le front. C'est à ce moment-là que lui et les autres garçons, ils ont réalisé, maudit, c'était le crâne d'un humain. Ils ont paniqué un petit peu, ils ont remis le crâne à sa place dans le tronc d'arbre vide, puis ils se sont promis de ne pas parler de leur découverte à personne et de jamais d'autre en reparler entre eux non plus.
Mauvaise idée.
On sait que la majorité des enfants sont pas capables de fermer leur bouche. Mais le lendemain, Thomas Willetts, il n'a pas pu s'empêcher de parler, puis il a tout raconté à son père. Le père a immédiatement appelé la police. Il a trouvé un crâne dans l'arbre. Ben, Chris, on va appeler, on va call the cops.
Ben, je pense que c'est mieux, là.
J'aurais fait pareil.
C'est ça.
J'aurais dit à mon père. Les policiers ont trouvé l'orme blanc. L'ouverture dans l'arbre, là, le tronc vide, était de 24 pouces de diamètre. Donc, c'est deux sandwichs Subway.
Merci, ça aide.
Mais en descendant dans l'arbre, le trou rétrécissait jusqu'à 17 pouces. Un Subway, deux biscuits.
Hey, en passant, là, 24 pouces ou deux Subway, c'est 60 cm pour ceux-là qui marchent en métrique.
C'est très bon, ça, merci.
Sting de moi, on ferait tout en Subway, je suis bien d'accord. Là.
Ce podcast n'est pas commandité par Subway. À l'intérieur, ils ont trouvé le crâne ainsi que d'autres ossements d'une personne. Les enquêteurs ont trouvé d'autres objets dans le tronc d'arbre, dont une alliance en or, mais de basse gamme, un soulier bleu de taille 5,5
anglaise.
Non, mais c'est pas la même 16 au Canada. Au Canada, c'est 7,5.
Ah, pas mon 16.
Sorry. Puis en Europe, pour le reste de l'Europe, parce que l'Angleterre puis le reste de l'Europe, c'est pas les mêmes tailles, mais en Europe, c'est 37.
Merci.
Voilà. Le deuxième soulier a été retrouvé quelques mètres à l'extérieur de l'arbre. Des os ont été retrouvés plus loin, comme un fémur. C'est possible que ce soit à cause de des petits animaux. La main droite de la personne était manquante. mais était partiellement enterré un peu plus loin de l'arbre. Le professeur James Wester était le médecin légiste de l'affaire et a reconstruit le squelette. Je vous parlais de l'autopsie, là, mais il ne faut pas oublier que c'est quoi qui s'est passé dans les années 40. Okay? Ouais. Il s'agissait d'une femme âgée entre 25 et 40 ans, mais pas mal 35 ans. Elle aurait eu les cheveux bruns. Elle aurait mesuré 5 pieds de hauteur. Puis en se fiant à sa taille, 5 pieds, puis avec les os de pied, les souliers qu'elle portait étaient vraiment trop grands pour elle.
Ben ouais, oui, c'est ça que j'allais dire. Elle a des grands pieds pour une petite fille de même.
Il restait des lambeaux de vêtements qui n'étaient pas encore décomposés dans le tronc d'arbre. Au moment de son décès, elle portait un cardigan bleu foncé et une jupe couleur moutarde. Ça a été déterminé que c'était pas une femme de la très grande bourgeoisie avec son petit kit. Correct, pas le pour juger, moi. Elle aurait porté un enfant au moins une fois. Puis ses dents inférieures présentaient plusieurs irrégularités. Il manquait deux dents en haut. Il y avait une dent manquante en bas à droite. Puis ça se peut que ces dents-là aient tombé dans le transport, mais ils n'ont jamais été retrouvées.
Dans le transport? Dans le transport du chrome?
Ça s'en vient par Morneau, là, ça sera pas long.
Non, mais dans le transport, mettons, de l'arbre jusqu'à la morgue ou peu importe où ils ont fait l'autopsie.
Oui, c'est ça.
Ils l'ont pas Post-Canada, là.
OK.
La femme avait des dents qui embarquaient les unes sur les autres. Il y avait une de ses palettes qui était embarquée par-dessus l'autre. Un beau gros X.
OK, ouais. Hein?
Les ossements ne démontraient aucun signe de violence ou de maladie. La femme aurait été décédée depuis au moins 18 mois, approximativement un an et demi avant sa découverte dans l'arbre. Ça situe sa mort en octobre 1941. Le fait d'être dans le creux du tronc d'arbre aurait pu influencer la décomposition du corps. Tu sais, le creux du tronc, c'était son propre écosystème pour la pluie, pour l'environnement, vous comprenez?
Mm-hmm.
Mais bon. Le professeur Webster a dit qu'il pouvait pas imaginer une personne aller dans l'arbre volontairement sans se blesser, même si la femme était menue, tu sais, avec son Saint-Pierre. Il a dit de ses propres mots, « L'entrée de cet arbre est extrêmement étroite et aurait été non seulement un inconvénient, mais aurait blessé même une petite femme de cette nature si elle s'était forcée à entrer dans l'arbre. Je ne crois pas que c'était une position probable pour un suicide. Un accident peut, je pense, être entièrement exclu. L'arbre, quant à lui, offrait une excellente dissimulation pour un meurtre. »
Fait que là, dans le fond, ce que tu nous dis, c'est que c'est un meurtre, puis qu'ils l'ont dépecé, puis qu'ils ont mis ses membres dans le petit trou.
Dépecée, je le sais pas. Je penserais pas qu'elle a été dépecée. Parce que ça a jamais été mis dans l'autopsie qu'elle a été dépecée parce qu'il verrait qu'il y a une coupe de certains membres. Ah. Le seul membre qu'ils ont vu qui a été coupé, c'est la main droite.
C'est après que ça s'est promené.
Ouais.
D'où l'hypothèse des petits animaux qui ont...
Ouais, mais ça doit être dur de la rentrer dans le trou, c'est ça mon point.
Ben, c'est ça l'affaire.
Ah, peut-être, ouais.
Elle aurait été placée les pieds en premier. Pognée dans un petit tronc d'arbre.
C'est peut-être fait mettre la dent vivante.
Oh! C'est très probable. C'est pas mal ça qu'ils pensent qui s'est passé ou qu'elle a été tuée juste à côté de l'arbre. Parce qu'un coup que la rigidité cadavérique était installée, oui, c'est impossible, ouais, de la placer dans l'arbre.
Mais c'est ça.
Dans la bouche, ils ont trouvé un morceau de taffeta, qui est un tissu genre de soie.
Taffeta.
Taffeta? Ah, oh, taffeta!
Pas grave.
Je m'y connais pas bien en textile, mais il était enfoncé dans sa bouche très profondément. Puis à cause de ça, ils ont pensé qu'elle était décédée par asphyxie.
Mm-hmm.
Donc, la cause de la mort, homicide par asphyxie. La nouvelle du décès d'une mystérieuse femme trouvée dans un arbre s'est répandue rapidement en Angleterre. Pourtant, personne n'a contacté la police pour l'identifier. C'est étrange parce que la madame a porté une alliance puis elle aurait porté un enfant. Les enquêteurs ont passé énormément de temps à fouiller dans les rapports de personnes disparues. Mais il n'y avait pas grand-chose sur lesquels se fier, mis à part son apparence physique, puis encore. T'sais, elle a été retrouvée au stade squelettique, elle n'avait pas de carte d'assurance maladie avec une photo, puis son nom. Hein? En raison du nombre élevé de victimes civiles de la Deuxième Guerre mondiale, des milliers de femmes ont été portées disparues au début des années 40. Faute de technologie moderne, la police était trop débordée et a été incapable de faire une correspondance de la femme trouvée dans l'orme blanc à une personne disparue. Les enquêteurs ont trouvé quelque chose qui les a stupéfiés. Au cours de leurs recherches, ils ont trouvé de quoi dans des vieux dossiers. En juillet 1941, ça c'est à peu près un an et demi avant la trouvaille du corps, un homme avait rapporté avoir entendu les cris d'une femme tout près d'Aglewood, qui est le boisé où est-ce que le corps a été retrouvé. Les policiers s'étaient rendus sur place, puis avaient cherché, mais ils n'avaient rien trouvé à ce moment-là. C'est possible que la femme qui criait était celle trouvée dans le tronc d'arbre vide de l'homme blanc.
Mm-hmm.
Vous comprenez?
Oui. Ça fait du sens.
Ça se peut que c'est elle. Ça se peut que c'est pas elle. Ça se peut que c'est une fille, elle a vu un loup, elle a eu peur, et petit après. On le sait beau. Le 4 mai 1943, un article a été publié dans le Birmingham Daily Gazette. ayant comme titre « Reconnaissez-vous ses dents? »
Ses chiens.
L'article faisait appel au dentiste du coin. Le professeur James Webster, le médecin légiste, était convaincu qu'au moins une de ses dents avait été arrachée par un dentiste. Si c'est le cas, il y aura un dossier ou un fichier qui aiderait à identifier la femme, vous comprenez?
Mm-hmm.
Mm-hmm.
Fait que ça se peut que ça aide à la retracer. Mais ça m'étonnerait fortement qu'un dentiste, un mardi soir, il a fini son chiffre, sa femme l'attend pour souper, puis il fouille un dossier for free.
Ben, en même temps, s'il se dit « Hey, moi, là, ça me dit quelque chose. »
Ouais, pour aider.
Les petites dents croisées, puis il se dit « Hey, je suis sûr, je sais c'est qui. » Puis à un moment donné, tu te dis « Je vais peut-être élucider something. » Fait que
oui.
Ça te donne une petite drive.
Ben, moi, le faire pour 100$.
Peut-être aussi.
Peut-être aussi. Peut-être avec une petite récompense, ça aurait peut-être fonctionné. C'était vraiment dans l'optique qu'elle a vraiment des dents spéciales. Peut-être que quelqu'un s'en rappellerait. Peut-être la secrétaire du dentiste, d'ailleurs. Peut-être, qui sait.
Mm-hmm,
hein?
Mm-hmm.
Mais en même temps, croiser quelqu'un qui a des dents croches il y a peut-être 5 ans, ça se peut que tu t'en rappelles plus. Hein?
Ben, ouais, pis, il devait tout avoir les dents croches.
C'est ça, j'allais dire, il devait être une gang dans ce temps-là.
Ouais.
Ça devait pas être autant hot qu'aujourd'hui, les broches. Non, c'est ça.
Les enquêteurs ont ensuite essayé de retracer le manufacturier qui confectionnait les souliers que portait la victime. Ils ont vu qu'il n'y avait pas tant de paires qui avaient été distribuées dans les environs. Ça les a amenés au commerce qui les vendait. Puis les policiers ont communiqué avec les commerçants, mais ça n'amenait nulle part. Tu sais, avez-vous vu une madame de 5 pieds l'an passé qui a acheté vos souliers? Pff, t'as beau dire qu'elle est en croche en plus, ils la trouveront pas.
Ouais.
6 mois après la macabre trouvaille des garçons dans les Hagley Woods, un portrait robot de la victime a été créé. Ils se sont basés sur les caractéristiques physiques de la femme qui ont été révélées grâce à l'autopsie, puis sur les vêtements qu'elle portait, qui, on le répète, n'étaient pas très dignes de la bourgeoisie.
Non.
Les policiers ont reçu quelques appels, mais rien ne leur a permis d'identifier la femme. Les enquêteurs ont suspecté que la personne responsable était quelqu'un qui connaissait le coin de Worcestershire. C'est pire que la sauce.
Mais c'est pas la sauce.
C'est pas la sauce.
Régie, do your thing.
C'est Worcestershire.
C'est ça?
C'est vrai, ça.
C'est la sauce?
C'est la sauce pour une place.
Mais c'est-tu la même place pour la même sauce?
Okay, oui.
Alors, c'est confirmé que la sauce vient de la même place que le nom de la place où on fait l'épisode. Les enquêteurs ont suspecté que la personne responsable était quelqu'un qui connaissait le coin de Worcestershire. Parce que les Hagley Woods étaient quand même fréquentés par des gens de l'environ. Puis l'arbre dans lequel la femme a été placée était pas mal le seul endroit là-bas où c'était possible de cacher le corps. Un corps, tu sais, tout court. Est-ce que c'était le seul avec un tronc vide? Moi, je connais pas même d'arbre. J'ai jamais croisé un arbre avec un tronc vide, là. Mais j'ai jamais escaladé un pour être sûr.
Mais surtout pas lui, là. Lui,
non, j'aurais jamais. Lui, il est assez spécial. Hein?
Mais l'affaire, c'est que sur la photo, on aurait dit qu'on aurait pu mettre genre 10 personnes
ouais, dans ton arbre. Ouais, c'est ça, ça a l'air immense, là.
C'est juste beaucoup de branches, ouais. Mais pourtant, non, hein.
Ouais, c'est ça.
Réalisez-vous, là, que soit qu'il y a une petite madame de 5 pieds qui a grimpé l'arbre, puis peu importe comment ça s'est passé, son meurtre, là, on n'est pas dans la théorie pantoute. Mais pensez que madame de 5 pieds que soit escaladé l'arbre. Ou que quelqu'un l'a mis sur son épaule puis l'a rentré dans l'arbre.
Mm-hmm.
Ouais, monter quelqu'un là, ça doit être de l'ouvrage aussi. Là. C'est quoi, 5, 6 pieds, c'est quand même pas si haut, mais c'est de la merde pareil.
Vous irez voir la photo sur Instagram.
Lespetitesfrousses.pod.
Parce que ça n'a pas l'air d'un arbre.
On dirait de quoi que Salvador Dali aurait pensé.
Ouais.
Ouais, un peu.
Mais le point étant, à propos de l'arbre, c'est que quelqu'un étranger de ce coin-là aurait pas pu le trouver. Il aurait fallu qu'il sache où cet arbre-là pour pouvoir penser à le cacher là-dedans. Ou qu'il était vraiment chanceux. Il l'a tué de X manière. Puis, ah, oh, ben, gadon, il y a un tronc d'arbre vide.
Ben, cachez-le.
T'sais. OK, ouais.
Je sais pas si vous comprenez.
Mm-hmm.
Vous pensez quoi de tout ça avant que je vais plus loin?
Ben, moi, je pensais quand même que la personne aurait été comme tuée autre part que dans la forêt. Puis que la personne. Là, c'est parce que là. Vu que c'est dans les années 40, moi, je pense que peut-être il l'aurait démembré de façon stratégique. Ça paraît peut-être pas tant. Puis qu'il aurait chauvé les os dans le trou.
Mm-hmm.
Pac, pac, pac. Selon moi, c'est comme ça qui fait plus de sens.
Bien, j'avoue que avant que tu m'en parles, j'avais même pas pensé, mais ça a jamais été quelque chose qui a été mis dans l'histoire, là.
Ouais, fait que probablement que vraiment, ils sont sûrs qu'ils ont repogné. Mais tu sais, je me dis, quand ils ont repogné le squelette, là, vu que ça, il était en décomposition, il n'y avait plus de tendons, plus rien qui tenait. Comment ils font pour vraiment savoir si ça n'avait pas été démembré avant?
Ben parce que quand tu démembres quelqu'un, tu vas pas contourner ouais, t'sais, l'os. Ça. Là.
Probablement qu'il y aurait des strikes de scie ou de ouais. Scie, ah! N'importe quel outil qui est utilisé pour couper.
Ouais, j'ai jamais démembré pas, personne.
C'est pas comme une aile de poulet cuit,
ouais,
ça se détache. Là,
mais il y a une possibilité, moi j'en doute personnellement, mais il y en a qui pensent qu'elle était déjà au statut squelettique quand ils l'ont mis dedans. Mais moi, ça m'étonnerait grandement parce que les vêtements ont suivi puis le spot de peau dans le front a suivi aussi. Je pense pas que quelqu'un... Puis un squelette, là, ça se tient pas comme on voit dans les films, là.
Ouais, non.
Mm-hmm. C'est en plein de petits morceaux. Puis il y a des morceaux qui étaient plus loin. Puis il y avait tellement d'affaires qui étaient plus loin. Puis son soulier. Fait que je pense vraiment qu'elle est morte très près de l'arbre.
Ouais.
Ou dans l'arbre.
L'hypothèse des petites bêtes, c'est vraiment pas fou, là.
Ouais, qui aurait déplacé. Des coyotes.
Maintenant, il y a quelque chose d'autre qui vient ajouter un peu de mystère à toute cette histoire. À Birmingham, il est plus facile à dire. Le 28 mars 1944, presque un an après la découverte de la femme, un homme nommé Wilfred L. White est tombé nez à nez avec quelque chose d'étrange. Sur un mur de briques d'un immeuble, il y avait décrit à la craie blanche les mots suivants. Aglywood, Bella. Sur un autre bâtiment, il y avait décrit « Qui a placé Bella dans l'orme blanc-Aglywood ». Deux jours plus tard, le 30 mars 1944, un autre homme, James Rowley, a découvert sur une maison un graffiti similaire qui a placé Lou Beller dans l'orme blanc.
Quelle la change de nom, là.
Ben, ouais, il y a deux personnes.
C'est comme
là.
Une variation de son nom, mais Lou Beller, qu'est-ce que ça veut dire? Aucune idée. C'est de quoi qui semble être vraiment mystérieux à propos de ce cas-là, parce que Lou Beller, est-ce que c'est un nom? Est-ce que c'est une place? Lou Beller puis orme blanc étaient soulignés. Les deux hommes, James Rowley et Wilfred L. White, tous les deux se connaissaient pas, ils ont contacté la police. Des photos ont été prises des graffitis et des échantillons de la craie ont été collectés. L'écriture était la même dans les trois cas. Le premier gars, il en a vu deux, puis le deuxième gars, il en a vu un. Il avait affaire avec un petit Banksy. C'était trop haut pour que des enfants s'amusent à écrire ça.
OK.
La femme a été trouvée à Aglywood, Worcestershire.
Comme la sauce.
Comme la sauce.
Comme la sauce.
Et les graffitis ont apparu à Birmingham. C'est environ 60 km de distance. C'est bizarre.
Mm-hmm.
De mars à avril 1944, plusieurs autres messages similaires et même identiques sont apparus dans le coin, mentionnant presque tous le nom Bella. C'est de cette manière que la victime s'est vue attribuer le nom Bella, autant par les policiers, le public, puis dans les journaux. Fait qu'à partir de maintenant, je vais l'appeler Bella, en essayant de ne pas l'appeler Bello. Parce que hein, c'est mon accent. En tout, 10 messages ont été trouvés en 1944 qui disaient « Qui a placé Bella dans l'orme blanc? » Les policiers ont demandé que tous ceux et celles qui connaissaient une femme ayant disparu et qui se nommait Bella ou une de ses variations, de communiquer avec la police. Ils ont aussi demandé que la personne responsable des messages se démasque. Plusieurs policiers ont été envoyés sur place la nuit pour surveiller les environs où les graffitis étaient apparus. Quand t'as pas de caméra, c'est plus compliqué.
Mm-hmm.
Est-ce que vous pensez que la personne qui écrivait ça, elle savait quelque chose? Juste votre opinion, j'aime ça.
En même temps, si la personne elle a mentionné son nom, théoriquement, elle est impliquée. Ou sinon, c'est juste un creep du village.
Ouais.
Le 12 avril 1944, un graffiti apparaît, mais celui-là est un petit peu différent. Puis pour vous l'expliquer, je vais faire un petit cours d'anglais. Orme blanc, en anglais, c'est Witch Elm. En deux mots, W-Y-C-H-E-L-M. La personne, elle a écrit Witch Elm, en deux mots toujours, mais elle a écrit W-I-T-C-H-E-L-M. Witch qui veut dire sorcière.
Mm-hmm. Mm-hmm.
C'est presque comme si quelqu'un demandait qui a mis Bella dans l'orme des sorcières.
Ouh! J'ai pas vu venir.
Et c'est de là qu'on peut se lancer dans les théories. On va faire beaucoup de voyages dans ces théories-là. Il y a beaucoup de stock. En 1945, Dr. Margaret Murray, c'est une archéologue et une anthropologiste à l'Université College de Londres, elle a émis une théorie digne du troisième œil. Dr. Murray affirmait qu'il y avait encore des gens qui pratiquaient la sorcellerie en Angleterre durant cette période, durant les années 40. Il y a un auteur qui s'appelle Donald McCormick, puis il a appuyé cette théorie. Et il a ajouté que le coin était souvent au centre des rumeurs concernant des couvents de sorcières, puis encore plus au Aglywood, où des rituels de magie noire auraient eu lieu.
Il me semble que je vois plein de petites sorcières se tenir par la main, faire le tour de l'arbre, des incantations. Hein? Oui, oui.
Ça fit.
Il y avait même un homme qui s'était fait tuer violemment tout près, dans son champ. Je vais faire vraiment un petit résumé de ce qui s'est passé avec cet homme-là, parce que c'est un autre cas en soi. Mais il avait été battu avec sa propre canne de marche, son cou avait été tranché avec son faux. Il était cloué au sol parce que sa fourche à lui traversait son cou jusqu'au sol.
Mm-hmm. Ah, c'était pas un petit coin tranquille, là?
C'était pas un coin tranquille. Il y avait une croix catholique de gravée dans sa peau. Puis quelques jours après son meurtre, il y avait un chien noir pendu dans un arbre pas loin de chez eux.
Ah! Oh! Non!
Ouais, OK.
Mais c'est pour ça que le monde dit, hein, sorcellerie, tu sais. Il y avait des affaires bizarres qui se passaient dans ce coin-là. Fait que Dr. Murray, l'anthropologiste et compagnie archéologue, a suggéré que Bella aurait été exécutée lors d'une cérémonie occulte et que sa main droite aurait été utilisée pour créer quelque chose qui se nomme la main de gloire. Voulez-vous prendre une chance pour deviner c'est quoi le moins de gloire? Juste pour rire.
Je suis pas sûr que je vais répondre à ça. Ça se dit pas vraiment.
Je vais expliquer c'est quoi une main de gloire, comment la faire, puis après je vais élaborer sur la théorie. Parce que c'est vraiment intéressant c'est quoi une main de gloire puis tout le tralala qui vient avec. Une main de gloire, c'est une main séchée d'une personne pendue, plus communément celle d'un homme, mais c'est toujours la main d'un criminel qui a ensuite été pendu.
OK.
C'est pas tout. D'anciennes croyances européennes attribuaient de très grands pouvoirs à la main de gloire s'il était combiné avec une bougie. Mais pas n'importe quelle bougie, là. Une bougie créée à l'aide du gras du défunt et d'une mèche, enfin la mèche de la bougie, fallait qu'elle soit faite à partir des cheveux de la même personne.
C'est bon. Sûr, ça pue.
Ah, ça doit sentir le diable.
On n'est pas chez Bath & Body Works.
Ah, ça doit sentir... Ah.
Ça doit sentir suré.
Ah oui, ça doit être sûr. Ah.
La bougie devait ensuite être déposée dans la paume de la main de gloire, comme si la main était un bougeoir, ou il y avait une autre variation. C'est que tu trempais les doigts de la personne dans cire faite à partir du gras, puis que chaque doigt devienne une bougie. Il y a beaucoup de photos puis de décorations basées sur ça qu'on magasine sur Urban Outfitters. Tu sais, une belle petite main, ah, oui. Chaque doigt c'est une bougie, ça vient de ça.
Ah.
Maintenant, quand on sait l'histoire, on dirait que c'est moins intéressant, mais je trouve ça quand même funky.
On n'achètera jamais ça.
Les mains de gloire avaient supposément un pouvoir hypnotique. Toutes les personnes qui entraient en contact avec la main de gloire, à l'exception de la personne qui était propriétaire, tombaient dans un profond sommeil. Moi, j'aimerais bien savoir ça. Je pourrais slacker les mélatonines. Apparemment qu'une main de gloire pouvait débarrer n'importe quelle porte. C'est pourquoi, à cette époque méconnue, que des criminels ou des voleurs traînaient une main de gloire avec eux lors de leur cambriolage. Cogne à la porte, à débord, tout le monde dort, je vole tes affaires, goodbye, gigante.
Ça fait tellement pas de sens, je trouve. Une petite main pourrie, tu traînes
ouais, ton porte-clés.
T'as ton petit jerky de main. Puis là, le monde, il s'endorme. Tain.
C'est parce que ça pue tellement, c'est pour ça qu'il s'endort.
Ouais, c'est clair que ça doit... T'as ça dans les poches, avec ta bougie au grévé du main. C'est dégueulasse.
Oh my God. Puis j'ai l'air de vous sortir un mythe qui a pas d'allure, mais c'est vraiment quelque chose qui était pratiqué pour vrai, OK? Est-ce que les pouvoirs étaient réels? Je pourrais pas vous dire. Mais le rituel autour de fabriquer une main de gloire se faisait pour vrai. Il y a plusieurs ouvrages qui datent de passé 1700, puis il y a tous les détails de comment en faire une. Et il y a une main de gloire dans un musée de Whitby en Angleterre. Une vraie de vraie.
Oh, wow!
Puis, mettons, est-ce que c'était juste les gens qui étaient un peu des chamans qui faisaient des mains de gloire, ou bien...
Oui, oui, oui.
Cécile en faisait une dans sa chaumière?
Cécile, elle faisait pas ça. Cécile, mettons qu'elle était mal intentionnée, elle pouvait n'acheter une à une sorcière.
Oh, OK. Tu comprends? Elle pouvait contrebande.
C'est ça, là, ils marchandaient. Là. Puis, tu sais, c'est quelque chose qui se pratiquait pour vrai, que les gens confectionnaient pour vrai. Mais il faut croire que les gens de l'époque étaient quand même victimes à ces attaques-là, tu sais, de se faire ou débarrer la porte avec une main qui pue, puis se faire voler, parce que les gens devaient trouver des solutions. Qu'il y avait aussi une petite recette. Puis la manière d'empêcher que quelqu'un déborde ta porte avec sa main de gloire, selon le petit Albert, qui est un grimoire de magie, c'était de composer un onguent.
Le petit Albert.
Je suis choquée.
Aïe, aïe.
Okay, aïe, aïe.
Ça n'a pas de bon sens. C'était de composer un onguent à base de bile de chat noir, de graisse de poule, de sang de chouette. Fallait mélanger ça pendant la canicule et étendre la mixture sur le cadrage de la porte de la maison.
Ah.
C'est quand même la job parce que t'as comme trois petites bêtes à aller chercher.
Ouais, c'est ça.
Ben, tu fais ça avec ton voisin, tu t'en partages un peu. Tu fais.
Ouais, je sais, mais faut quand même que t'aies tiré une chouette, puis tu pognes un chat, puis c'est quoi l'autre affaire?
De la graisse de poule blanche, ça c'est facile.
De la poule, ça c'est pas si pire.
La poule, là, tu sais, il suffit de trouver un fermé dans le tas.
C'est pas si pire.
Culture populaire, des mains de gloire, on peut en avoir dans Harry Potter, la famille Adam, tu sais, la petite main dans le plancher, là.
Ah!
Oui! Ben oui!
Buffy contre les vampires, je m'en rappelle pas, j'étais trop jeune. On se rappelle juste de Sarah Michelle Gellar anyway. Les aventures effrayantes de Sabrina, qui est la nouvelle version de Sabrina l'apprentie sorcière, dans RuneScape. Oh. Quand t'as débloqué l'archéologie, là.
Oh!
Écoute. Puis Hellboy, ça a l'air.
Hellboy.
Hellboy, moi, j'ai jamais écouté.
J'ai jamais vraiment écouté.
Ouais. Ben, tu vois. Si quelqu'un quelque part, vous nous confirmerez que c'est vrai dans Hellboy, j'ai vu ça sur Google. Habituellement, pour une main de gloire, c'est la main de gauche qui est utilisée. Par contre, si la personne est un meurtrier, c'est la main qui a fait l'acte du meurtre qui est utilisée. Puis on se souvient que la main qui a été trouvée à l'extérieur de l'arbre, c'est sa main droite. Oh. Ça voudrait dire que Bella était une meurtrière.
Ouh.
Un autre fait qui corrobore avec la théorie du docteur Murray, c'est que la main a été retrouvée enterrée exactement 13 pas plus loin que l'orme blanc dans lequel le squelette a été retrouvé. C'était une ancienne coutume utilisée lorsqu'une sorcière était exécutée.
OK.
Fait que là, on part de Bella, elle s'est fait exécuter par des sorcières. Bella est une sorcière. Bella est une sorcière qui tue.
Wow.
Mais là, sa petite main, quand ils l'ont trouvée à Bella, là, était-tu en jerky ou bien c'était juste genre les ossements?
Ils l'ont pas dit parce qu'ils ont juste trouvé les ossements.
OK, c'est ça. Fait qu'on savait pas.
Ben, c'est de quoi? C'est un problème avec cette théorie-là, là. C'est que la main, ils sont pas partis avec, ils l'ont laissé là. Fait que peut-être que ça a pas marché.
Ouais.
Ou peut-être qu'ils ont pas eu le temps, ou peut-être que X affaire est arrivée parce que la main, ils ont pas parti avec. Fait ouais. que c'est comme ça qui nuit à cette théorie-là.
Ouais, ouais, ouais.
Ça empêche pas qu'ils ont peut-être fait quand même un sacrifice de sorcière. Mais je trouve ça le fun d'apprendre ben non, sur les Maine-Gloire.
C'était peut-être bien la main, sa main de Jerky à elle. Puis là, ils l'ont pognée, puis elle est tombée de ses poches. C'est une sorcière, ça peut être la main de l'autre. Qui, c'était elle, c'était sa petite main.
Ça se fait!
Vous me suivez.
Mais c'est très possible, je l'accorde. Je l'accorde. Puis la deuxième théorie, c'est que Bella était une sorcière. Puis je vais vous expliquer pourquoi ça serait pas une sorcière plus la Maine-Gloire. Pourquoi mettons juste la sorcière? Cette théorie-là est dans la même optique que Dr. Morrig, l'anthropologiste, et l'auteur Donald McCormick que j'ai mentionné dans La théorie de la Maine-Gloire, où il disait qu'il y a des couvents, il y en avait dans le coin, puis la sorcellerie était toujours pratiquée dans les années 40 en Angleterre. Il existe une exécution de sorcière, puis cette exécution-là, fallait placer une sorcière dans un tronc d'arbre vide pour emprisonner l'esprit. Puis en faisant ça, ça créait une prison, puis l'esprit pouvait pas se sauver.
Ben là, c'est ça, c'est ça.
Mais ajoute là, aussi là, la faute de frappe, witch, qui est W-Y-C-H, mais là, c'est W-I-T-C-H.
Ouais.
L'homme des sorcières. Boum!
Voilà.
Ouais.
Mais pour revenir à la Maine-Gloire, maintenant qu'on remêle la Maine-Gloire à ça, il fallait que la personne soit une criminelle, puis qu'elle soit pendue pour ses actes, là. Qu'elle soit condamnée. Mais le fait de pratiquer de la sorcellerie ou tout ce qui était en lien avec l'occultisme, c'était considéré comme un crime. C'est possible que Bella était une femme qui a été pendue après s'être faite pogner à faire de la sorcellerie. Les enquêteurs, ils ont regardé les rapports de femmes disparues. Ils n'ont pas regardé les rapports de femmes pendues puis condamnées, là.
Mm-hmm.
Fait que c'est pas mal ça pour cette théorie-là, qui est comme deux théories en deux parties. Avant de passer à la dernière théorie que j'ai, je pense que c'est vraiment important qu'on fasse une espèce de petite coupure entre les deux parce qu'ils n'ont aucun rapport l'une et l'autre. Donc ça, c'est pas une théorie, mais c'est plutôt une piste. Il y a quelqu'un qui a essayé de faire quelque chose, ça n'a pas de bon sens. Il y a un gars qui s'appelait George Elwell. Il me semble que c'est un gars qui travaille sur les trains. Il a décidé d'essayer quelque chose d'ésotérique. Un soir de janvier 1954, il s'est rendu au Wagleywood. Il s'est arrêté devant l'homme blanc dans lequel Bella avait été retrouvée. Puis il s'est dit « Je vais assimiler l'atmosphère en regardant l'arbre. » George Elwell est reparti chez lui après un petit bout de temps. Puis il a décidé d'entrer dans une transe hypnotique. Puis pour accéder à cette dite transe, il a utilisé un clignotant de voiture et un miroir, puis il s'est enregistré. Après 15 minutes... à fixer une lumière d'auto, George Elwell a sorti de sa transe. Là. Il s'est mis à taper des noms et les descriptions des meurtriers responsables de la mort de Bella au dactylo, puis a ensuite envoyé le document à la police. On ne sait pas trop ce qui s'est passé par après, mais la chose est sûre, c'est que l'affaire de Bella dans l'orme blanc n'est pas résolue. Là.
Non.
Mais je voulais juste faire une petite parenthèse avec son histoire à lui, parce qu'il a essayé. Il a fait de quoi qu'il n'y ait pas de bon sens. On en rigole aujourd'hui.
Moi, c'est le bas du clignotant de char. Là.
Ouais.
L'autre théorie, notre petite dernière, en novembre 1953, le journal de Wolverhampton Express and Stars a reçu une lettre. La personne qui avait écrit la lettre disait connaître l'identité de la femme dans l'arbre et de son meurtrier. La lettre va comme suit. Vous ne résoudrez jamais l'affaire. La seule personne qui pourrait vous fournir des réponses est désormais hors de la juridiction des tribunaux terrestres. Cette affaire est classée et n'implique ni sorcière, ni magie noire, ni rituel au clair de lune. Les seuls indices que je peux vous donner sont que le responsable est décédé fou en 1942 et que la victime était une Allemande arrivée illégalement en Angleterre en 1941, signée Anna.
Oh.
Wow.
Elle écrit bien, Anna.
Oh.
Après un certain temps, la personne qui a écrit la lettre a été retrouvée et questionnée par la police. C'était une femme et son véritable nom, c'était pas Anna, mais plutôt Una Mossop. Elle t'avait toute une histoire. La petite mère, là, elle avait du stock à dire. Una Mossop affirme que Bella était une espionne nazie à la recherche d'informations sur l'emplacement des usines de munitions locales. On se rappelle que cette histoire-là a eu lieu durant la Seconde Guerre mondiale et que si ces locations-là tombaient dans les oreilles des nazis, ça aurait pu grandement nuire à l'Angleterre. La raison pourquoi Una Mossop, la femme qui a écrit la lettre au journal, est au courant de ça, c'est parce que c'était son défunt mari qui lui en aurait parlé. Son nom à lui, c'est Jack Mossop, puis il était pilote de l'armée de l'air britannique. 10 ans avant l'écriture de la lettre, pendant la guerre, travaillait dans une usine d'avions à Birmingham. Au fil du temps, Una remarque que Jack dépense beaucoup d'argent et achète des vêtements qu'il ne devrait pas être capable de se payer, puis porte des uniformes que son tute ne lui permet pas de porter. Una s'est questionnée beaucoup, puis elle s'est finalement dit que l'argent devait provenir d'un nouvel ami que Jack Mossop s'était fait, son mari, un Allemand qui s'appelait Van Ralt. En 1941, Jack Mossop buvait beaucoup et Una le met à la porte. Et c'est à ce moment que Jack a tout confessé. Jack se serait ramassé dans un réseau d'espionnage avec son nouvel ami allemand, Van Ralt. Et un soir, Van Ralt et Jack Mossop étaient allés dans un pub d'Aglé pour boire quelques pale ale, tu sais. Van Ralt était accompagné d'une femme. Van Ralt et la femme ont passé la soirée à se confronter. Plus tard dans la soirée, les trois se retrouvent en voiture. Jack Mossop conduisait. La femme était assise du côté passager et Van Ralt était assis à la banquette arrière. Même en voiture, les querelles entre la femme et Van Ralt ont escaladé au point où ce dernier a attaqué la femme et l'a étranglée. Jack Mossop a arrêté la voiture sous le choc. Lui et Van Ralt ont ensuite traîné le corps de la femme environ 25 pieds plus loin et l'ont placé dans le tronc d'arbre vide qui s'y trouvait.
Oh!
Fait que ça serait ça l'histoire selon la femme de Jack Mossop.
Ça serait okay, ça, mais... ça serait ces deux-là, les doutes. Ouais. Ça serait l'Allemand qui l'aurait... C'est-tu l'Allemand ou Jack?
Ça serait l'Allemand qui l'aurait étranglé. Qui
l'aurait étranglé.
Puis pendant que Jack Mossop y conduisait, genre.
Ouais.
Après cet incident-là, Jack Mossop et Van Ralt ont arrêté de communiquer ensemble. En juin 1941, Jack Mossop fut admis à l'hôpital psychiatrique du comté de Stanford parce qu'il faisait continuellement des cauchemars où il voyait une femme qu'il fixait de l'intérieur d'un arbre. C'est creepy!
Ugh.
Ah, j'ai un frisson.
Ugh.
Wow.
Ça n'a pas rapport qu'elle était espionne ou quoi que ce soit, elle était juste...
Ben, ça expliquerait pourquoi personne l'a cherché. Puis personne n'a rien dit.
Ah, ouais.
En fait, c'est pour ça. C'est pas mal juste ça que cette théorie l'explique. Jack Mossop, il est mort en août 1942, deux mois après son admission, presque un an avant la découverte du squelette de Bella. C'est pas lui qui a pu écrire les mots sur les murs.
Ouais.
La police pensait que c'était une piste avec beaucoup de potentiel parce que des espions allemands s'étaient infiltrés dans la région pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est arrivé que des espions allemands soient démasqués et exécutés en Angleterre dans les années 1940. Il y avait beaucoup d'usines essentielles à l'effort de guerre anglaise dans la région et comme j'ai dit plus tôt, le fait de connaître leur emplacement aurait été de l'information précieuse. Malgré ça, la déclaration d'une Nam Mossop, la femme de Jack Mossop, a été remise en question. Pourquoi tu dis ça après 10 ans? Parce qu'elle a dit ça en 1953, là. Ouais. Bella a été trouvée en 1943. Genre, t'écris pas à la police, t'écris au journal. Mm-hmm. Pourquoi? Genre, c'est quoi tes motivations derrière ça? Ça a été un peu... T'sais, ils ont regardé, ils ont essayé de trouver Van Ralt, ils l'ont jamais trouvé. Puis en fin de compte, les policiers n'ont pas accepté ça comme étant l'histoire officielle, mais plutôt comme un oui-dire.
Mm-hmm.
Ouais, peut-être qu'elle attendait juste que son mari soit mort.
Ouais, mais il est mort en 1942. Il est mort un an avec le corps a été trouvé. Fait qu'elle avait le temps, hein, elle a bien demandé que ça a popé, là.
Ou bien elle l'avait sur le cœur, mais elle voulait pas aller à la police par peur de représailles.
Genre, ouais, peut-être aussi. Mais en même temps, ça leur a apporté aucune nouvelle information. Tout ce qu'elle a dit, c'était déjà su.
Ouais.
Ça arrive des fois, là, du monde qui veulent « Ah, j'ai mon 5 minutes de gloire. »
Possible.
Mmh. Ouais.
Il y a plein d'autres petites théories. Une mini-théorie, c'est que ça aurait pu être une espèce nazie, mais qui aurait parachuté, puis elle aurait tombé dans les Aglewood, elle se serait blessée, puis elle aurait été trouvée par des habitants d'Agley qui l'auraient tuée puis cachée dans l'arbre. Puis le morceau de taffeta, ben c'est pas dans la théorie de l'affaire nazie avec Jack Mossop puis Van Ralt, mais dans cette théorie-là, le morceau de taffeta, ça venait de son parachute, parce que ça a l'air qu'il y avait des parachutes faits en taffeta dans la Deuxième Guerre mondiale. Mais le reste, c'est où? On disait bon. Fait que ça, hein, belle tentative, mais... Deuxième mini-théorie, c'est possible que Bella soit en vrai une travailleuse du sexe qui a été tuée par un client et que la police s'en est foutue justement parce que c'est travailleuse du sexe. Mm-hmm. Et c'est des choses qui arrivent encore aujourd'hui en 2021. Puis les messages sur les murs proviendraient de d'autres travailleuses du sexe du coin.
Ah ouais, ça fait... Ouais.
C'est pour ça.
Ça fait comme... crissement du sens.
C'est...
Mais en même temps, tu sais, c'est la guerre, là. Toute l'histoire du militaire puis de l'espionne, puis tout, ça fait du sens aussi parce que, tu sais, c'est sûr que c'est de même, là, je veux dire. Il était en plein dedans, là, dans ces années-là, là. C'était sur le bord, tu sais, c'était juste avant que ça se finisse, là. Fait que ça devait battre de son plein, là, tu sais.
Ouais.
Fait que ça fait plein de sens aussi que ça soit juste, tu sais, comme le dude, là, que tu parlais tantôt, là, qui était cloué à terre avec sa...
Ouais.
C'était les nazis étaient rock'n'roll en tabarnak. Fait que, tu sais, les deux trucs font du sens. La sorcière, c'est une autre histoire.
Ouais.
Mais c'est ça.
C'est ma préfète.
Ouais, c'est la plus divertissante à 100 000 à l'heure.
Là. Ouais. Je pense pas que, mettons, une travailleuse du sexe se fait porter disparue. Ça a autant le même poids qu'une autre personne. Ben, ça devrait, là. Mais je pense que, surtout à l'époque,
surtout dans ce temps-là,
ça pesait pas. Fait que quand il est venu le temps de résoudre le cas de la madame dans l'arbre, ils ont même pas fait le lien. Surtout qu'ils l'ont dit, c'était pas accoutré pour être une bourgeoise.
Non,
c'est porter des souliers trop grands.
C'est ça.
Je trouve que c'est même pas connu comme théorie, là, genre. Puis en même temps, c'est tellement logique. Ce cas-là, il a jamais été classé. C'est toujours irrésolu. Et les restes de Bella ont été perdus.
Oh.
Ça veut dire que l'affaire ne peut pas bénéficier des analyses d'ADN modernes.
Dommage.
C'est plate parce que cette madame-là, elle a au moins porté un enfant, donc elle a peut-être, il y a une possibilité qu'elle ait un arbre généalogique. Pourquoi, comment ils font pour perdre ça? Je comprends pas. Ils déménagent tout le temps, genre, ils se promènent avec des boîtes, je comprends pas. Ouais.
Ou bien, à un moment donné, ça vient mal conservé, puis c'est juste plus viable, fait que c'est au vidange.
J'avoue que ça fait un petit bout, mais quand même, c'est pas résolu. Je sais pas. Je pense pas qu'ils peuvent jamais s'en débarrasser, parce que c'est des preuves.
Ben, moi, j'imagine que la conservation doit coûter trop cher.
Ouais, exact.
Fait qu'ils doivent, ils doivent les enterrer.
Peut-être. Ah, ben ouais, c'est bien trop vrai, pareil. Mais je pense pas qu'ils les enterrent, c'est des preuves. Tu sais, ils l'enterrent, puis le monde trouve c'est où. Ils vont déterrer, ils vont aller faire des rituels avec.
Je pense qu'il...
Moi, j'ai toujours pensé qu'ils les enterraient, là, les gens, les Jane Doe, puis tout.
En 2018, il y a eu une reconstitution faciale digitale de Bella qui a été faite par une équipe de l'Université John Moore de Liverpool, dirigée par Caroline Wilkinson. Puis tout ça a été rendu possible grâce aux photos du crâne de Bella, pas son crâne parce qu'il est gone. Le but, c'était pas de la retracer là, avec cette reconstitution faciale-là, mais plutôt de pouvoir associer un visage de la victime, puis je vais la mettre sur Instagram aussi. Mais c'est quand même bien, ils ont fait ça, tu sais, il y a pas si longtemps. Là.
Ouais, c'est ça, c'est surprenant, 2018.
Ouais, c'est ça.
Allez voir les photos sur notre Instagram.
Ben, t'in.
Puis dites-nous qu'est-ce que vous en pensez.
Les petites frousses.pod.
Bonsoir.
Bonsoir.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.